VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Il est midi à Niamey au Niger. Bonjour à tous. Les ténors de l'opposition nigérienne se sont réunis en conclave ce matin à Niamey, au lendemain de l'annonce de l'évacuation de Ama Amadou en France. Écoutez la réaction du porte-parole de la COPA 2016, la coalition de l'opposition, Ousseynou Salatou.
Pour nous, tant que Ama Amadou ne quitte pas l'espace aérien nigérien, il n'a pas quitté le Niger. C'est clair et net. Même s'il l'amène à Niamey, tant qu'il n'a pas quitté, l'avion n'a pas quitté l'espace aérien nigérien pour lui, n'a pas quitté parce qu'il peut le faire revenir. Donc, Hamamoun, jusqu'à preuve du contraire, est encore à Filenge. C'est clair et net. Et nous confirmons et nous disons que Issoufou Mohamed sera responsable de ce qui lui adviendra. C'est clair et net.
Et votre médecin qui est en prison, qu'est-ce que vous dites à ce sujet?
Nous n'avons pas d'inquiétude, nous croyons à la justice nigérienne. Nous savons qu'il va être libéré, ça c'est clair et net. Comment voulez-vous dans un pays qu'on ne demande pas à un médecin de parler de l'état de santé de son client? Je pense qu'il y a des situations inédites dont Issoufou Mohamed et son régime sont les seuls spécialistes. Ce que le professeur Yaka a dit, le ministre Moro est venu le dire, l'a confirmé. Donc entre le ministre Moro et Yaka qui est en train de divulguer des fausses informations. Mais nous pensons que ce régime n'a pas de pudeur, n'a pas de fierté. C'est des spécialistes en mensonges. Ils vont continuer à mentir. De toutes les façons, nous sommes sûrs et certains que le professeur Yaka va être libéré.
Le porte-parole de l'opposition nigérienne, Ousseynou Salatou. Les crimes de guerre se poursuivent sans relâche au Soudan du Sud. Meurtres, viols systématiques et disparitions forcées sont le lot quotidien, comme l'ont fait ressortir de récents rapports de l'ONU, d'Amnesty International et de Human Rights Watch. Pour certains groupes de défense des droits humains, des sanctions et d'autres mesures ciblées pourraient avoir un impact là où un accord de paix a échoué. Les précisions, Jacques Aristide.
Décembre 2013, la date qui marque la descente aux enfers pour le Soudan du Sud. Des combats éclatent, c'est l'escalade. L'ONU parle de violences graves et systématiques à l'égard des civils. En octobre dernier, dans l'état d'unité, plus de 60 hommes et garçons sont découverts morts asphyxiés. Amnesty International accuse les forces gouvernementales. Durant le même mois, Human Rights Watch révèle, preuve à l'appui, des abus graves perpétrés dans la région de Western Equatoria. Les signataires de l'accord de paix, paraphé en août 2015, ne sont pas prêts de former un gouvernement d'unité nationale. L'une des pierres d'achoppement, la démilitarisation de Djouba, sujet qui continue de diviser le président Salva Kiir et le leader de l'opposition Riek Machar. Pour des observateurs qui mettent en doute le bien fondé de l'accord de paix, il est grand temps pour la communauté internationale de prendre de nouvelles mesures afin de mettre un terme au drame qui se joue au Soudan du Sud.
Le Maroc a annoncé une réduction significative de sa participation à la mission de l'ONU au Sahara occidental. Une nouvelle escalade dans un dossier à l'origine de tensions entre Rabat et les Nations Unies. Le Maroc veut une large autonomie sous sa souveraineté pour ce vaste territoire de moins d'un million d'habitants et a reçu hier le soutien de Moscou, tandis que le Polisario, soutenu par Alger, réclame un référendum d'autodétermination. Le président égyptien Abdel Fattah Al-Sisi a promis que justice serait faite après l'assassinat d'un étudiant italien torturé à mort au Caire. Giulio Regeni, c'est son nom, a disparu le 25 janvier au Caire. Son corps a été découvert mutilé le 3 février. Depuis, l'affaire empoisonne les relations entre l'Égypte et l'Italie. Les milieux diplomatiques au Caire, la presse italienne et des ONG soupçonnent une bavure des services de sécurité égyptiens, fréquemment accusés de détention arbitraire et de torture. Les autorités égyptiennes ont cependant assuré à plusieurs reprises que Giulio Regeni n'avait jamais été arrêté. Le dossier de ce journal, en République démocratique du Congo, une dizaine de militants du mouvement Lutte pour le changement, Lucha, ont été arrêtés hier en début d'après-midi à Goma lors d'une marche pacifique. Ils demandaient la libération de leurs camarades arrêtés depuis exactement une année à Kinshasa lors d'un atelier sur la démocratie. La manifestation a été dispersée par la police. Charlie Kasereka nous appelle de Goma.
C'est en mémoire de l'arrestation de leurs camarades depuis plus de 12 mois maintenant à Kinshasa qu'ils ont voulu organiser une messe suivie d'un site initié à Goma. Ils étaient une dizaine, leurs bouches bandées et leurs mains liées en signe de solidarité avec ses compagnons incarcérés à Kinshasa. À peine 20 minutes du début de la marche, alors qu'ils se dirigeaient dans une église de la place, ils ont été interpellés sans résistance et par un dispositif de la police qui a été déployés depuis tôt ce matin sur toutes les grandes artères de la ville de Goma. Trésor Akili est aussi membre du mouvement Lucha. Lui et certains d'autres camarades ont réussi à s'échapper. Il témoigne ici.
On demandait la libération de Fred. C'est la journée mondiale contre les violences policières. Mais malheureusement, la Lucha et les militants de la Lucha viennent de subir cette violence policière. Cet agissement de l'autorité ne nous fait pas de frustration. Au contraire, ça prouve suffisamment que nous devons nous battre pour cette liberté. Et si nous croisons les bras, il arrivera un moment où on ne parlera plus dans ce pays.
À ces jours, ils sont plus d'une dizaine incarcérés dans différentes prisons de la RDC, à Goma comme à Kinshasa. Certains membres de la Lucha, d'ailleurs l'Organisation internationale de défense des droits de l'homme, Human Rights Watch, a, dans un communiqué publié ce mardi matin, demandé aux autorités congolaises de libérer les deux militants pro-démocratie arrêtés depuis plus de 12 mois maintenant à Kinshasa. Ida Sayuer est chercheuse et senior à Human Rights Watch, ici à Goma.
Donc nous avons pris l'opportunité de cet anniversaire pour mettre une pression aux autorités congolaises. Et un parmi ces deux détenus à Kinshasa, Fred Bauma, est membre de Lucha et originaire de Goma ici. Et quand ce matin, avant que la marche avait commencé, la police était bien déployée en centre-ville de Goma, là où ils avaient planifié d'organiser leur marche et un sit-in. Et jusqu'à là, on a des informations d'au moins 6 activistes qui étaient arrêtés par la police ici à Goma. Mais peut-être autres aussi, nous sommes en train de confirmer les informations.
Charlie Kasereka, depuis Goma pour VOA Afrique.
Dans 20 secondes, 7 minutes à Washington, aux États-Unis.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Et ici aux États-Unis, Donald Trump a de nouveau frappé fort lors d'un super mardi des primaires américaines. Hillary Clinton a fait un immense pas vers l'investiture démocrate. John Lindon.
La victoire éclatante du milliardaire de 69 ans en Floride marque la fin de l'aventure pour le jeune sénateur Marco Rubio, qui ne portera pas les couleurs républicaines lors de l'élection présidentielle du 8 novembre. Avec une victoire dans son état de l'Ohio, le gouverneur John Kasich est devenu de facto le candidat de la base traditionnelle du parti. Côté démocrate, la soirée fut très bonne pour Hillary Clinton qui, après un échec en 2008 lors de la primaire face à Barack Obama, espère cette fois-ci devenir la première femme de l'histoire à accéder à la Maison-Blanche. Au-delà de la Floride, l'ancienne secrétaire d'État l'a aussi emporté, comme attendu, en Caroline du Nord, face au sénateur du Vermont, Bernie Sanders. Mais sa victoire la plus belle de la soirée est celle de l'Ohio, état plus industriel, où son adversaire partait en position plus favorable.
Hillary Clinton donc se préparait aujourd'hui à un duel contre Donald Trump à l'élection présidentielle prévue en novembre. Chacun des deux candidats a fortement consolidé sa position pour l'investiture aux conventions de juillet. C'est l'avis en tout cas du professeur Jim Caesar de l'Université de Virginie à Charlottesville.
Hillary Clinton a battu Sanders et c'est l'écart qui est impressionnant. Elle a écrasé vraiment Sanders. Elle commence maintenant une campagne contre les républicains comme si elle a déjà gagné. Et je suis d'accord, elle a probablement gagné l'investiture.
Côté républicain, Donald Trump a gagné la Floride et le sénateur Marco Rubio vient de jeter l'éponge.
Il a perdu dans son propre état. Donc ça montre la force de Trump. Il a gagné aussi en Caroline du Nord. Donc c'était impressionnant pour lui aussi, sauf que le fait qu'il a perdu l'Ohio et laisse une ouverture, même si c'est une mince ouverture, pour la campagne pour les autres, à la fois Kasich et Cruz. Donc je ne dirais pas que la campagne républicaine est terminée, pas encore.
Professeur Jim Caesar de l'Université de Virginie à Charlottesville, joint par John Lindon. On termine avec la Syrie. Conformément à l'annonce de Vladimir Poutine, les premiers bombardiers et avions de transport russes ont quitté la Syrie et ont été accueillis par des vivas en Russie. Le secrétaire d'État américain John Kerry va se rendre dans une semaine à Moscou pour y rencontrer le président russe. Jean-Roger Billon à ce micro. Merci de nous avoir suivis. Le prochain journal vous sera présenté par Henri Francisque, c'est dans 50 minutes exactement. Merci de nous avoir suivis et surtout merci pour votre fidélité et bon après-midi sur le continent. À bientôt.
Sous
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.